Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie et de ce qui devait être le dernier numéro de la saison pour votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Mais comme l'an dernier, nous allons probablement jouer les prolongations jusqu'à la fin de la deuxième semaine de juillet, bien que nous passions en grille d'été dès lundi prochain sur Radio Présence, en attendant d'avoir confirmation de la tenue de ces deux émissions supplémentaires. J'ai le plaisir de recevoir trois invités aujourd'hui. Tout d'abord Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Nous allons revenir avec lui sur les premières représentations d'Adrienne Le Couvreur, l'opéra de Francesco Cilea au Théâtre du Capitole, sachant qu'il en reste deux les jeudis 26 et dimanche 29 juin. À ses côtés dans ce studio, Jean-Sébastien Borsarello et Simon Théris, respectivement timbalier solo et contrebassiste co-soliste de l'Orchestre National du Capitole. Ils participent aux Balades Musicales en Aveyron, un festival dont la cinquième édition a lieu du 31 juillet au 5 août et ils vont nous présenter sa programmation en seconde partie d'émission. Pour l'instant, place à l'opéra avec Robert, retour arrière.
Mélomanie, retour arrière.
Bienvenue à vous trois, ravis de vous recevoir à Mélomanie. Retour donc sur les premières représentations d'Adrienne Le Couvreur au Théâtre du Capitole, où l'opéra de Francesco Cilea est mis en scène par Ivan Stefanuti et dirigé par Gianpaolo Bisanti. Robert nous l'a présenté la semaine dernière et entre-temps, il a assisté à la première de la nouvelle production de cette œuvre que l'on n'avait pas vue, je le rappelle, à Toulouse depuis près de 40 ans. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de manière générale et concernant les chanteurs que l'on peut y entendre, Robert?
Alors, il faut dire que la première, c'était le 20 juin, au Théâtre du Capitole, du chef-d'œuvre de Francesco Cilea, vient de connaître vraiment un triomphe qui a fait trembler les murs du Capitole. Il faut dire que, en fait, Eric, tout était vraiment réuni pour que cette soirée soit pétrie d'émotions et également de suspense. Pourquoi suspense? Simplement, imaginez un peu, deux jours avant, José Cura, qui devait chanter Maurizio, le ténor de cet opéra, déclaré forfait pour raison médicale, et Christophe Christi s'est trouvé avec une Adrienne sans ténor, ce qui est évidemment impensable. Donc, enfin, on peut lui faire confiance. Et en 48 heures, il a su trouver un remplaçant, c'est-à-dire le remplaçant est arrivé 24 heures avant, et le jour du spectacle, il a passé son temps, toute sa journée, sa matinée et son après-midi, à répéter avec le chef, évidemment, avec le metteur en scène, parce que, Maurizio, c'est pas un rôle psychologiquement très valorisant, faut le reconnaître, mais quand même vocalement très exigeant, puisqu'il a des parties solistes, mais également il a des duos, et il faut quand même s'ajuster avec les partenaires avant de se présenter devant le public. Qui est ce ténor qui est arrivé au dernier moment, au pied levé, c'est un jeune Italien qui s'appelle Vincenzo Costanzo, qui fait une carrière européenne et même d'outre-Atlantique, tout à fait intéressante. Mais également, il avait déjà chanté, bien évidemment, Adrienne Le Couvreur. Sinon, il aurait été impensable qu'il
apprenne. S'il n'avait pas du tout connu le rôle, comment il aurait pu prendre la relève au pied levé.
Non, ça ne serait pas été possible. Mais enfin, quand même, vraiment, je tiens à le féliciter. Il faut savoir que s'il n'avait pas été là, le spectacle n'avait pas lieu.
Et voilà, c'est annulé.
Voilà. Et le public du Capitole lui en a su gré, mais l'a accueilli au rideau final lorsqu'il est venu saluer en solo. Mais un triomphe indescriptible, même. Il était très ému. Il a pleuré, ce pauvre garçon. Parce que ça se demandait si jamais il a eu un pareil triomphe. Mais enfin, le triomphe était dû à plusieurs choses, aux circonstances, mais également à son interprétation. Oui. Voilà. Puisque donc là, on a affaire quand même à un ténor que je qualifierais de grand lyrique, c'est-à-dire avec une voix très puissante, très bien projetée, la technique est sans faille, l'ambitus donc, est particulièrement homogène et développé, les registres sont parfaitement soudés, et alors il chante, je ne sais pas si vous voulez faire ça pour essayer de vaincre un track qui, il faut reconnaître, était bien légitime, hein. Mais alors il s'est jeté sur les points d'orgue pour le plus grand bonheur du public, bien évidemment, parce que dans la mesure où il avait la note bien, bien en place, bien en voix, bah, le public il vient aussi un peu pour ça, il faut le reconnaître. Et vraiment, il nous a gâtés. Alors, je ne sais pas si on le reverra, évidemment, mais j'espère que oui. Dans tous les cas, le public y a réservé un accueil qui tient du triomphe romain, littéralement. Maintenant, passons à la production. Après, on passera au chanteur, évidemment. Donc, elle est signée intégralement d'Ivan Stefanuti. Alors, intégralement, pourquoi ? Parce qu'Ivan Stefanuti a pris en charge la mise en scène, la scénographie et les costumes. Elle a été créée il y a une vingtaine d'années en Italie. Et puis, c'est une production qui fonctionne parfaitement et dont beaucoup de théâtres en Europe
la reprennent,
oui, effectivement. Elle décale l'action de deux siècles, puisque donc, normalement, l'action d'Adrienne le Couvreur se passe en 1730, et en fait, il la met au début du XXe siècle, époque Art déco, à Paris, bien sûr, puisque se passe à Paris.
Ça se passe à Paris.
Beaucoup des costumes sont noirs et blancs. Pardon, ils sont soit noirs, soit blancs. Il y a très, très peu de couleurs. Ivan Stefanuti fait une allusion là à un art nouveau qui est en train de naître au début du XXe siècle, c'est le cinéma. Hein. Et donc, il pense, dans son idée, qu'Adrienne le Couvreur était déjà le prémisse du star system hollywoodien. Bon, ça, je lui laisse entièrement la responsabilité de ce décalage, mais pourquoi pas, après tout, ça ne fait de mal à personne. Dans tous les cas, c'est une production, là, je tiens à le dire, hein, extrêmement agréable à regarder. Elle rend l'intrigue qui, en définitive, est un peu compliquée, parce que c'est une intrigue sentimentalo-politique, avec parfois des scènes qui tiennent un peu du théâtre de boulevard, hein. Bon, c'est un peu compliqué, mais là, cette production rend tout ça parfaitement lisible, et ça a été applaudi par le public lorsque toute l'équipe de production est venue saluer. Au-delà de tout ça, évidemment, il y a une partition, évidemment, et elle porte clairement les traces, bien sûr, d'une école illustrée également par des gens peut-être un peu plus connus, tels que Puccini, Leon Cavallo, Mascagni, Zandonai et bien sûr Boito et autres. Alors c'est une partition sur laquelle il serait quand même un peu imprudent de jeter un regard beaucoup trop rapide, parce qu'en définitive, à l'écoute attentive, ben, on y découvre des subtilités absolument magnifiques, une orchestration somptueuse, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de violence dans cette partition. Pourquoi ? Parce que les sentiments qui sont exprimés autant dans la partie vocale que par les personnages, des personnages extrêmement romanesques, avec tout ce que cela comporte évidemment de sentiments tels que la passion, la colère, la haine parfois, la folie, puisqu'on le sait, tout ça finira bien mal. Donc c'est une très très belle partition. Et elle était confiée au niveau orchestral au maestro Giampaolo Bisanti, qui a littéralement fouetté l'orchestre. Alors, fouetté
dans le bon sens du terme.
Comprenez ce que je veux dire. Hein. L'orchestre national du Capitole, toujours évidemment, c'est complètement récurrent de dire que c'est un très bel orchestre, mais autant le répéter, puisque c'est la réalité. Et comme le dit très souvent Christophe Gristy, s'il n'y avait pas un orchestre pareil, un chœur pareil, je ne pourrais pas faire des spectacles pareils. Et donc, le maestro Giampaolo Bisanti nous a fait vivre vraiment dans l'orchestre également toute cette fougue et toute cette violence des sentiments que j'exprimais tout à l'heure. Alors en plus, c'était un spectacle un peu particulier parce qu'également, il y avait, outre les phalanges chorales dirigées par Gabriel Bourgoin, qui évidemment ont été, comme d'habitude, toujours fidèles au rendez-vous et au Capitole, il faut dire qu'il n'y a que de grands rendez-vous. Alors donc, l'orchestre, les phalanges chorales, mais également, on avait trois danseurs
du
ballet qui participent parce que c'est dans la partition. Alors, je trouve ce qui est assez malin, c'est que en fait, Giampaolo Bisanti a confié ce ballet à Michele Cosentino, qui lui a eu l'idée, en travaillant évidemment avec le metteur en scène, de transposer le ballet initialement écrit par le Chilea en un ballet. Alors c'est la musique, c'est la même musique que celle de Chilea, mais par contre c'est pas un ballet 1730 on va dire, puisque c'est en fait un ballet qui reprend un petit morceau du prélude à l'après-midi d'un faune, mais tel qu'il a été créé par Nijinsky en 1912. Et c'est normal, puisque l'action se passe à ce moment-là. Alors, les chanteurs, je vais d'abord vous faire part d'un coup de cœur.
Ah, mais c'est bien qu'il y en ait un.
Là, c'est un vrai coup de cœur, et ce n'est pas dans un premier rôle, c'est dans un grand second rôle, c'est le rôle de Michonnet. Alors, le rôle Michonnet, Adrien Lecouvreur se passe à la Comédie Française. Et donc, dans la Comédie Française, comme dans tout théâtre du monde, il y a un régisseur. Et ce régisseur, c'est Michonnet. C'est un homme qui est là depuis très longtemps. C'est l'âme de la Comédie Française. Il veille à tout ce qui peut se passer de bien ou de mal en coulisses. Et au fur et à mesure des années qui passent, il est follement amoureux d'Adrien Lecouvreur. Il n'a jamais osé le lui dire et finalement, il tentera plusieurs fois de lui dire au cours de la pièce, mais jamais il n'y arrive pas. C'est un rôle extrêmement émouvant, très difficile à interpréter. Il n'y a pas de grandes scènes qui lui sont attribuées, mais il y a des récitatifs qui en disent très très long. Et Christophe Gristy nous a fait le bonheur d'engager pour chanter ce rôle un immense baryton italien qui s'appelle Nicolas Laimo. C'est lui l'un des premiers à chanter au premier acte. Mais dès qu'il a commencé à ouvrir la bouche, tout d'un coup, il y a eu un frisson dans la salle. Voilà, parce que cette voix, d'abord, est immense. Hein. Ensuite, elle est d'une perfection technique, mais absolument sidérante. Le timbre est magnifique. Moi, ce que j'adore chez les barytons, c'est lorsque les teintes fauves du timbre de baryton montent dans l'aigu. Et là, c'est la preuve évidente que la voix est en place. Donc ça, c'est magnifique et vraiment. Et en plus, Nicolas Laimo est un artiste. Et pour chanter Michonnet, il faut un artiste. Et le public, encore une fois, ne s'y est pas trompé. Malgré que ce ne soit pas un grand rôle, avec de grands airs, eh bien, le public y a fait le grand triomphe de cette soirée. Alors après, évidemment, il faut parler des principaux rôles qui ont été loin de démériter. Donc d'abord, Liana Routounian, puisque c'est elle, Adrien Lecouvreur. C'est un rôle qu'elle possède elle, de longue date et auquel elle prête une émotion permanente absolument magnifique et surtout un soprano très opulent auquel elle confie évidemment les envolées lyriques de cette partition dans des moments de toute beauté. Face à elle, elle avait à affronter, c'est le cas de le dire, la princesse de Bouillon qui est un mezzo-soprano. C'était Judith Cutassi qui est vraiment ce qu'on peut appeler une rivale venimeuse, puisqu'en fait, c'est elle qui la tuera, vous le savez, en lui envoyant des fleurs empoisonnées. Et Judith Cutassi, évidemment, elle aussi a un organe gigantesque. Et donc, c'était encore une fois une princesse de Bouillon de luxe. Mais en parlant de luxe, son mari sur scène, hein, Roberto Scandiuzzi, qui faisait le prince de Bouillon. Quand on parle de Roberto Scandiuzzi, on parle du commandatore de l'opéra italien aujourd'hui, qui n'est plus tout à fait un jeune chanteur, hein, loin s'en faut, mais enfin, il garde un phrasé, il garde un timbre avec cette couleur nocturne, il garde cette autorité, il garde cette présence en scène. Et les chanteurs, vous savez, Eric, me disent, quand il y a Roberto sur scène, je ne sais pas pourquoi, mais on est tranquille.
Et
c'est ça, une espèce de tour de contrôle, on sait que rien ne peut nous arriver, voilà. Et ensuite, il y a un autre rôle, de ténor de caractère, l'abbé de Chasseuil, qui est un abbé un peu encombré de pulsions, qu'on n'a pas de peine à comprendre dans cette production. Et c'est Pierre Déret qui fait ça, avec un ténor subtilement mené et qui traduit évidemment à merveille l'ambiguïté de ce personnage. Tous les seconds rôles et troisième rôles sont parfaitement tenus et résultat, le spectacle en ce vendredi soir a obtenu une multitude de rappels et des ovations sans fin. Voilà. On peut dire que la saison 24-25 du Théâtre du Capitole se termine en majesté.
Eh bien, après ce retour enthousiaste de Robert sur la production actuellement à l'affiche de l'Opéra National du Capitole, je vous propose d'écouter Liana Aroutounian dans un des airs les plus célèbres d'Adrienne Lecouvreur, Ecco respiro appena lo son l'umile Ancella. Liana Aroutounian interprétait l'air Ecco respiro appena lo son l'umile Ancella d'Adrienne Lecouvreur et vous pouvez encore découvrir la grande soprano arménienne dans un de ses rôles favoris lors des représentations du 26 juin à 20h et du 29 à 15h au Théâtre du Capitole. Je rappelle que les billets sont en vente avec une remise de 50% par rapport au tarif initial. Profitez-en et ne ratez pas l'occasion d'aller voir le chef-d'œuvre de Francesco Cilea. Fin de cette première partie d'émission, nous faisons la petite pause musicale habituelle avant de retrouver Robert Pennavert, Jean-Sébastien Borsarello et Simon Théris pour évoquer avec eux le prochain festival Balade musicale en Aveyron. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda, c'est donc l'édition 2025 des Balades musicales en Aveyron que vous avez cofondée et que vous codirigez, Jean-Sébastien Borsarello, avec le violoncelliste Thibaut Blanchard-Dubois. Vous y participez également en tant que musicien, de même que votre camarade Simon Théris, ici présent. Je rappelle que vous êtes respectivement timbalier solo et contrebassiste co-soliste de l'Orchestre National du Capitole. Ce festival a été créé en 2021 et avant qu'on parle de sa programmation qui se déroule cette année du 31 juillet au 5 août, est-ce que vous pouvez nous dire où ont lieu les concerts et quelle est la ligne artistique que vous avez choisie, le répertoire que vous y abordez ?
Oui, alors merci Eric de l'invitation. Cette année, nous avons 7 concerts, comme l'année dernière d'ailleurs, puisque donc, comme vous disiez, le festival a été créé en 2021. Peut-être revenir très brièvement sur la genèse. Il se trouve que je faisais des concerts avec une association qui aidait des jeunes étudiants. Et j'ai fait une rencontre dans le petit village de Campuac, des élus de la ville qui venaient au concert à l'occasion d'un pot de l'amitié après le concert. On a discuté et l'idée d'un festival dans la région est venue assez vite dans la discussion. Et le Covid, malheureusement, est arrivé.
Est passé par là.
Voilà. Mais en 2021, je crois que c'était après le deuxième confinement, j'ai reçu un appel de ces élus du petit village de Campuac qui me disaient « Bon, on a besoin de culture, on a besoin de faire quelque chose, donc on va monter ce festival ». Et en 2021, donc on a commencé par 3 concerts, puis 4 en 2022, puis 6 en 2023, puis 7 en 2024 et donc en 2025 également, puisque maintenant nous travaillons avec la communauté de communes Lot-Cantal-Truyère. Donc pour situer à peu près, donc c'est en Aveyron.
C'est plutôt nord-est.
Voilà, c'est le nord-est, à peu près entre 20-30 minutes de Rodez, sous la vallée du Lot. Voilà, et alors la ville la plus au nord, c'est Estaing. Et la plus au sud, c'est Montrosier. Montrosier-Gage, mais nous jouons dans le petit village de Montrosier.
C'est un superbe coin. Hein.
Très, très joli. Très, très joli village.
Qui est superbe.
Voilà, les grosses villes Espalion-Bozoul et les petits villages Ville-Comtal, qui est un très joli village en briques rouges. Campuac, là où tout a commencé. Et Golignac, qui est un chemin de passage du chemin de Saint-Jacques.
Le répertoire, donc, dominante classique, mais pas seulement.
Alors, oui, on a quand même, voilà, issu du milieu classique, Thibaut et moi, donc l'autre fondateur du festival. Donc, on a démarré par des concerts de musique classique, musique de chambre. Mais il y a quand même quelque chose que je dois préciser, c'est qu'on a voulu assez vite sortir de la musique de chambre pure, c'est-à-dire des concerts un peu traditionnels, classiques, et nous avons voulu ajouter d'autres arts, associer d'autres arts à la musique. Par exemple, nous avons fait un concert gastronomique où il y avait une chef qui nous a préparé des petites entrées apéritives entre les pièces, et c'était une chef toulousaine d'ailleurs, Sarah Truong, qui était chef de l'Empereur de Hué.
Oui.
Nous avons fait aussi une performance d'artiste en live avec Sandrine Foller, artiste plasticienne toulousaine, donc qui réalisait des portraits, des dessins pendant que les musiciens jouaient avec une retransmission sur écran. Nous avons fait des balades, puisqu'il y a aussi donc balade musicale en Aveyron, il y a le concept des balades où on se promenait dans un village,
les villages.
Voilà, avec des petits mini-concerts de part et d'autre. Voilà quelques exemples, ou alors une thématique sur par exemple le fameux trio Robert, Clara et Brahms, Robert Schumann et Brahms. Et cette année, la nouveauté, c'est que nous avons donc un ciné-concert donc avec des musiciens en live qui vont jouer pendant un film muet. Et nous ouvrons cette fois le répertoire jazz.
Et ça, ce sont des premières. Hein.
Voilà, ça, ce sont des premières. On se veut éclectique, on veut ouvrir au plus grand nombre. Et donc, voilà, on ouvre notre ligne artistique.
Alors, on va parler des artistes que vous avez invités cette année, mais on va le faire puisqu'on va maintenant rentrer dans le détail de la programmation. Il y a une autre précision importante, c'est que l'entrée est libre pour la plupart des concerts, à l'exception du ciné-concert.
Voilà, tout à fait. Nous avons toujours fait l'entrée libre. Il y avait aussi une volonté de la communauté de communes qui nous soutient très largement de garder ces concerts libres dans la dynamique de l'été, des festivaliers, des gens de passage.
Oui, c'est aussi proposer quelque chose aux visiteurs, aux touristes.
Voilà, exactement. Donc ça, c'était aussi une volonté de la communauté de communes qui nous soutient. Cette année, il y aura donc les 6 concerts en entrée libre, mais pour le ciné-concert, vous imaginez bien, Eric, que c'est un certain coût avec la projection, avec la technique. Donc là, nous avons choisi de faire une billetterie qui est déjà en ligne sur notre site balademusicalaveyron.fr, où vous pouvez d'ores et déjà réserver votre billet.
Sachant que le tarif est très modique puisque c'est 10 euros à plein tarif.
Exactement.
Donc ça reste très abordable. Concert d'ouverture le jeudi 31 juillet à 18h30 à l'église Saint-Fleuret d'Estaing avec un programme que vous avez sous-titré « Cordes et lames ». Que va-t-on y entendre et qui va-t-on y entendre ?
Alors des cordes évidemment et des lames. Alors des lames de marimba puisque nous allons ouvrir ce concert avec un petit concerto, on pourrait dire, de Jean-Pascal Bintus qui est un compositeur de musique de film et notamment orchestrateur de Alexandre Desplat. Il a écrit un petit concerto pour marimba qui dure environ 16 minutes, qu'il a dédicacé à Éric Samut, un grand marimbiste français qui est né à Toulouse, d'ailleurs comme Jean-Pascal Bintus. Cordes et lames, et ce sera suivi par le célébrissime quintet à cordes pour deux violoncelles de Schubert. Alors le quintet à cordes de Schubert, mais qu'on dit à deux violoncelles, puisque la formation est assez inhabituelle.
Quintet à cordes en Do majeur, Deutsch 956. Les artistes, quelque chose me dit que dans la pièce de Bintus, vous devriez être sur le pont, si je puis
oui,
dire.
Oui, Oui, j'aurai le plaisir d'interpréter la partie de marimba. Alors, j'ai déjà joué ce concerto avec un orchestre à cordes, mais là, comme il n'y a pas trop la place dans les églises, ce sera une version quintette à cordes.
Avec quel musicien ?
Avec Laura Jaillet, donc ma collègue, notre collègue de l'Orchestre du Capitole. Claire Kezel, qui est une amie d'enfance qui travaille à l'Orchestre Symphonique de Vienne, donc une expatriée en Autriche. Élodie Laurent, qui est altiste à l'Orchestre National de France. Urška Horváth Blanchard, qui est violoncelliste slovène, mais qui habite en Angleterre. Simon Théris, ici présent à la contrebasse. Thibaut Blanchard-Dubois, donc le cofondateur du festival. Et moi-même, donc je l'ai déjà dit.
Simon Théris, vous, c'est pas une première au festival. Vous avez déjà participé l'an dernier. Un mot sur l'esprit que vous avez trouvé dans cette manifestation et sur le plaisir que vous pouvez avoir à jouer dans ces lieux qui sont tous magnifiques.
Oui, c'est une chance de jouer dans ce genre de festival. C'est une chance d'être programmé, surtout quand, comme moi, on a le métier de musicien d'orchestre, on a l'habitude de jouer dans des formations très grosses, massives.
Et dans des grandes salles.
Voilà, dans des grandes salles. Là, ce genre de festival, même ce festival Balade Musicale en Aveyron, il est placé sous le signe de la proximité. La proximité avec le public, parce que les salles sont toutes petites. Moi, en tant que contrebassiste, je me suis retrouvé 2-3 fois avec une distance d'à peine un archet avec le public.
C'est assez contraint, évidemment, l'espace.
Oui, mais c'est une chance parce que voilà, on a des regards qui sont vraiment différents. Et la proximité aussi entre les musiciens. On passe une semaine ensemble à travailler dans des conditions de rêve, si j'ose dire, dans des maisons à la campagne.
Mais il y a un petit côté vacances, même si c'est bien sûr du travail pour vous.
Il y a un cadre de vacances et une ambiance de travail qui, du coup, est très...
C'est propice à la concentration.
Tout à fait, voilà. Et qui nous permet de faire des concerts dans des conditions d'amitié profonde. On noue des liens très forts.
Je pense qu'effectivement, il y a des liens qui doivent se créer, peut-être encore plus forts qu'à l'intérieur d'un grand orchestre, où vous êtes plus de 120 au Capitole, tout de même, si je ne me trompe pas.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Voici un extrait de Cordes et lames, la pièce pour marimba et cordes composée par Jean-Pascal Bintus. Extrait de Cordes et lames, la superbe pièce pour marimba et cordes de Jean-Pascal Bintus, qui est au programme du concert d'ouverture des Balades musicales en Aveyron 2025, le jeudi 31 juillet à 18h30 à l'église Saint-Fleuret-d'Estaing. Deuxième concert le vendredi 1er août à 18h30 à l'église Sainte-Foy de Montrosier. Il est sous-titré « Vent d'Est ». Que nous avez-vous concocté cette fois-ci ?
Alors évidemment, un petit programme venant de l'Est, pour paraphraser. Nous commencerons avec l'ouverture sur les thèmes juifs de Sergueï Prokofiev, qui est une œuvre de musique de chambre qui est assez étonnante, puisqu'il y a une formation un peu bizarre, une clarinette, un quatuor à cordes et un piano. Alors c'est une pièce qui a été composée à partir de thèmes traditionnels juifs, donc en 1919, par Sergueï Prokofiev. Et c'est une commande qui a été faite par un ensemble qui s'appelait l'ensemble Zimro. Donc pour rester avec le lien avec Prokofiev, nous jouerons ensuite le trio de Khatchaturian, le trio en sol mineur. Pareil, une instrumentation inhabituelle, clarinette, violon et piano. Et c'est une œuvre de jeunesse d'Aram Khatchaturian, donc qui est un compositeur soviétique arménien. Une œuvre de jeunesse, il avait 29 ans. Mais voilà, elle représente déjà quand même son style qu'il aura plus tard. Et c'est Sergueï Prokofiev qui a remarqué ce trio et qui l'a fait interpréter à Paris. Voilà, donc petit lien. La suite du programme, je laisse Simon en parler puisqu'il est totalement concerné.
La suite du programme, pour un contrebassiste, est une énorme chance. Il s'agit de l'Intermezzo et Tarentelle de Reinhold Glier. Je dis que c'est une chance parce que c'est une pièce écrite pour contrebasse et piano, on peut dire pour contrebasse solo, qui a été écrite par un grand compositeur, Reinhold Glier. Il est né en 1875.
Il est russe, contrairement à ce que son nom pourrait
tout à fait
ne pas faire croire.
Il est russe et il a été entre autres, le professeur de Prokofiev. Donc c'est une pièce, on n'a pas l'habitude de voir la contrebasse dans un rôle de soliste. Moi le premier, j'ai l'habitude de voir la contrebasse au sein de l'orchestre symphonique.
Qui accompagne
dans une équipe de 8 contrebassistes, dans un ensemble d'une centaine de musiciens. Là, c'est la contrebasse toute seule face au public.
La contrebasse en vedette.
En vedette, tout à fait. Et c'est donc une grande chose, un gros challenge. C'est une pièce qui permet de sortir de la lourdeur, de la masse de cet instrument et qui permet de montrer un peu de poésie, un peu de virtuosité.
Et montrer une autre facette.
Tout à fait. La suite du programme, c'est aussi une chance pour un contrebassiste puisqu'il s'agit du quintet en sol majeur de Dvorak, qu'il a composé en 1875. Et je dis que c'est une chance pour un contrebassiste parce que Dvorak a choisi d'écrire une pièce de musique de chambre. Il a pris un quatuor à cordes classique, c'est-à-dire deux violons, un alto, un violoncelle, et il a ajouté à ça une contrebasse. Et de suite, un quatuor à cordes auquel on ajoute une contrebasse, ça prend un côté très orchestral. Ça permet d'agrandir considérablement la masse sonore. Et là, je reviens dans mon rôle de contrebassiste d'accompagnateur, mais avec une souplesse beaucoup plus importante que dans un orchestre.
Les musiciens qui vont se produire ce soir-là, donc Simon Théris à la contrebasse et
toujours
les autres.
Laura Jaillet, Claire Kezel au violon, Elodie Laurent à l'alto, Urshka Horvat Blanchard et Thibaut Blanchard Dubois au violoncelle. Il y aura également Martin Weiss, qui est un ami clarinettiste qui travaille à la Garde républicaine, et également pianiste. Alors ça, c'est le grand bonus dans un festival, c'est d'avoir des polyinstrumentistes. Donc voilà, en fait, on va alterner les parties de piano puisque ce sera Martin, donc il va jouer avec Simon le glière. Et moi, j'assurerai la partie de Prokofiev et la partie de Khatchaturian puisque Martin sera à la clarinette.
Et pour illustrer ce joli programme d'Europe de l'Est, nous allons écouter l'ouverture sur des thèmes juifs, la pièce de Serge Prokofiev. Thank you. L'ouverture sur des thèmes juifs de Serge Prokofiev, l'une des œuvres au programme du concert Vent d'Est du vendredi 1er août à 18h30 à l'église Sainte-Foy de Montrosier. Le lendemain, le samedi 2 août, toujours à 18h30 à l'église de Golignac, cette fois-ci, vous proposez un concert Ravel versus Debussy. Bon, on sait que les deux compositeurs n'étaient pas vraiment les meilleurs amis du monde. Quel est le concept de ce programme dédié aux frères ennemis de l'impressionnisme musical ?
Alors, ce programme va se passer autour d'un quiz. Comme je vous disais, il y a toujours une petite
originalité.
Originalité. Nous avons déjà testé le quiz les années précédentes. Par exemple, nous avions fait un concert sur les musiques classiques utilisées dans les films. Et donc, alors là, c'était assez interactif hein, avec le public.
Le film,
il fallait soit reconnaître le film, soit reconnaître la musique. Voilà, alors on donnait au public le titre ou du film ou de la musique, on jouait et ils devaient trouver l'association. Et l'année dernière, on avait fait aussi un concert, alors là c'était un petit peu plus technique, il y avait une mélodie cachée dans une des pièces qu'on jouait et il fallait reconnaître cette mélodie. Alors, en l'occurrence, c'était le cancan dans les tortues du Carnaval des animaux. Voilà, il fallait reconnaître ça. Et cette année, à nouveau un quiz, peut-être un peu plus délicat. Il y aura 3 œuvres mystères à reconnaître. Alors, on ne va pas demander au public de citer les œuvres, hein, mais les compositeurs. Ou du Ravel, ou du Debussy. Chaque membre du public aura son petit papier avec ses 3 lignes à compléter. Œuvre 1, œuvre 2, œuvre 3. Et à dire si c'est du Ravel ou du Debussy. Évidemment, on va faire un petit peu de pédagogie musicale. On commence à réfléchir un peu à comment on va organiser ça. Là, le programme que je vais vous dire, évidemment, il n'y a pas les œuvres mystères, mais ça va donner au public des clés d'écoute, un peu pour essayer d'associer les styles musicaux aux compositeurs, pour qu'ils puissent reconnaître après dans les
pièces. Le style Ravel ou le style Debussy.
Voilà, alors dans la liste, il y aura des extraits du Tombeau de Couperin, dans une version à piano 4 mains. Il y aura un extrait de la sonate pour violon et violoncelle toujours de Ravel, la vocalise étude en forme de habanera qui a été jouée moult versions avec moult instruments. Il y aura la pavane pour une infante défunte dans une version pour piano solo. En plus, ce sera Martin qui va l'interpréter. Puis de Debussy, enfin dans le désordre, hein, nous avons une version du prélude à l'après-midi d'un faune, un arrangement réalisé par le harpiste Fabrice Pierre. Un petit prélude, parce que voilà, quand même, les préludes de Debussy pour piano, c'est quand même une œuvre emblématique, donc les minstrels. Les extraits des épigraphes antiques. Alors là, il y aura un épigraphe pour piano 4 mains et un épigraphe pour flûte et piano. Les 3 autres pièces sont les mystères. Et donc, à l'équipe que nous retrouvons, donc Laura Jaillet, Claire Kezel au violon, Elodie Laurent à l'alto, Urshka Horvat Blanchard et Thibaut Blanchard Dubois violoncelle, Simon Théris toujours à la contrebasse, Martin Weiss, clarinette et piano, moi-même au piano, et nous rajoutons Sandrine Tilly.
Et oui, la flûtiste, j'avais une petite idée de qui ça pouvait être. Donc, la flûtiste solo de l'Orchestre National du Capitole, et bien ça tombe bien, parce que je vais vous faire entendre la flûte de l'excellente Sandrine Tilly dans cet extrait de prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy. Elle est accompagnée au piano par son amie Anne Lobozek, qui d'ailleurs dirige un festival aussi dans l'Aveyron. Prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy, interprété par la flûtiste Sandrine Tilly et la pianiste Anne Lebozek. C'est un extrait d'une des œuvres au programme du concert Ravel versus Debussy du samedi 2 août à 18h30 à l'église de Golignac. Dimanche 3 août, direction l'église Saint-Barthélemy de Villecomtal. Vous présentez à 18h30 un duo de flûte et marimba. J'ai dans l'idée qu'on y retrouve Sandrine Tilly à vos côtés pour ce concert, Jean-Sébastien Borsarello.
Alors bien sûr, c'est le duo que je forme avec Sandrine depuis une douzaine d'années. Et donc cette année, voilà, j'avais plus ou moins prévu de programmer notre duo un jour dans une édition. Et comme la présence de Sandrine se prêtait très bien en plus avec le concert de la veille, donc je me suis dit, ça y est, cette fois, c'est bon, on peut programmer notre duo. Un programme très éclectique, comme toujours, hein, avec notre formation. Un peu de Piazzolla, d'Histoire du Tango, un peu de Villa-Lobos, avec une pièce qui est normalement pour flûte et violoncelle, mais on fait un petit arrangement sympa, qui s'appelle Asobio a Rato. Une pièce plutôt inédite d'un violoncelliste vénézuélien qui s'appelle Paul Dezen. La pièce s'appelle Surfei. C'est une petite pièce très, très rigolote, un peu dans l'esprit du tango, mais d'écriture plus contemporaine. Et je suis très content, le cœur du programme, c'est Ma mère loi de Maurice Ravel. Donc il y a un petit lien évidemment avec le concert de la veille.
Et puis c'est l'année Ravel.
En plus, donc nous allons jouer une petite suite, la suite de Ma mère loi que j'ai un peu réarrangée d'après la suite qui avait été elle-même arrangée pour flûte et piano. Donc j'en ai fait une version avec marimba. Et nous aurons le plaisir de créer la pièce Conte à rebours de Patrick Burgan, qui est un compositeur toulousain.
Qui est installé dans notre région, enfin même dans la région toulousaine.
Voilà, qui nous a donc composé une pièce de Conte à rebours. Pourquoi ? Alors c'est une pièce qui est écrite d'après la suite de Ma mère loi. En fait, on retrouve tous les thèmes de la suite de Ma mère loi.
Oui, parce que c'est Conte, c'est O-N-T-E-S.
Voilà, Conte à rebours. Donc nous ferons la création de cette pièce au festival. Ensuite, quelques fantaisies de Téléman, où j'aurai le plaisir d'accompagner Sandrine avec des percussions digitales. C'est un peu la petite astuce. Des extraits de West Side Story et une pièce originale pour flûte et marimba, que nous jouons depuis très longtemps, une pièce d'un compositeur néo-zélandais qui s'appelle Gareth Farr, et la pièce s'appelle Kembang Suling.
Et c'est justement cette pièce que je propose de faire écouter à nos auditeurs et sans doute même faire découvrir, Kembang Suling, que vous jouez avec Sandrine Tilly. Kembang Suling, la pièce pour flûte et marimba du compositeur néo-zélandais Gareth Farr, jouée par Sandrine Tilly et Jean-Sébastien Borsarello, qui donnent donc leur concert le dimanche 3 août à 18h30 à l'église Saint-Barthélemy de Villecomtal, lundi 4 août à l'église Saint-Hilarion-Sainte-Foy de Perse d'Espalion. Attention, c'est à 18h, a lieu le concert de jazz du Festival 2025 pour lequel vous avez invité le duo Funambule. C'est une formation piano-voix fondée par la chanteuse Margot Iberti et le pianiste Nino Munier, deux musiciens toulousains. Et je pense que Simon Théris va pouvoir nous dire un mot sur ce tandem.
Oui, Nino, c'est un musicien que j'ai eu la chance de rencontrer il y a 2 ans, avec qui j'ai un petit peu travaillé. Et je pense qu'en tant que musicien, et du coup en tant que public, ce sera la même chose, c'est une rencontre très importante, très enrichissante. Moi, j'ai appris énormément sur la musique avec Nino, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de formation classique, mais qui est un musicien extrêmement complet, qui explore énormément de styles. notamment avec son autre groupe qui s'appelle Deux Fleurs. Voilà, je conseille vraiment ce concert parce que c'est des musiciens absolument extraordinaires dans un style qu'on a moins l'habitude d'entendre. Ils vont jouer des standards de jazz et dans un festival de musique classique, je pense que ça a vraiment sa place.
Donc il y a des standards américains, parfois un peu type Broadway, donc standards de jazz. Il y a un peu de chansons françaises aussi qu'ils ont revues à leur sauce.
Voilà, tout à fait. Je pense que, et puis à mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises. Le répertoire va être très varié.
Il y a même un peu de bossa nova, de la variété. Donc bon, il faut laisser la surprise, je pense, les gens auront compris. Mais pour que nos auditeurs puissent se faire une idée du répertoire du duo Funambule, voici leur version d'un standard immortalisé jadis par le légendaire Nat King Cole, Love.
And it's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V, it's very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. Love, it's more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.
Love de Nat King Cole dans la version du duo Funambule, Margot Iberti et Nino Munier, dont le concert est donné à 18h lundi 4 août à l'église Saint-Hilarion, Sainte-Foy-de-Perse d'Espalion. Le même jour à 21h, une autre première dans ce festival, le ciné-concert qui se tient au complexe Cardabel à Bozoul. Il est payant celui-ci, on l'a dit en première partie d'émission, mais donc au tarif modique de 10€. Et vous avez choisi d'y projeter Le Mécano de la Générale, l'un des films les plus célèbres de Buster Keaton. Avec quel musicien allez-vous l'accompagner ce soir-là et avec une musique composée par qui ?
Alors, la musique est d'un compositeur belge qui s'appelle Bodie Medjam. Et les musiciens donc, seront Laura Jaillet, Claire Kezel toujours au violon, Elodie Laurent à l'alto, Urshka Horvat Blanche au violoncelle. Et ce quatuor sera dirigé, parce qu'avec un film c'est toujours mieux d'être dirigé, par Laurent Comte, qui est directeur dans le Doubs, d'un conservatoire dans le Doubs, et qui a étudié la direction à Genève, si ma mémoire est bonne, et qui a notamment assisté Jean-François Verdier à l'orchestre Victor Hugo. Nous pensons faire une tradition de ciné-concert au Festival des Ballades Musicales en Aveyron. Je précise que la projection sera assurée par l'association Mondes et Multitudes, et avec Jean-Baptiste Parizeau à la régisson qui nous vient de la Halograin.
Oui, et puis vraiment c'est un chef-d'œuvre ce Mécano de la Générale. On ne se lasse pas de le voir et de le revoir. Le concert de clôture a lieu le mardi 5 août à 18h30 en l'église Saint-Pierre-Estiens à Campuac.
Campuac, là où tout a commencé.
Là où tout a commencé et où tout finit. Donc cette année, le programme est sous-titré Viva España, ce qui donne déjà une bonne idée de ce que l'on va y entendre, qui sont les compositeurs espagnols que vous avez convoqués pour finir en beauté ce festival 2025. Il y a un intrus tout de même, mais pour une bonne raison.
Bah oui, alors commençons par l'intrus, hein, Georges Bizet, puisqu'on ne peut pas évidemment passer à côté du répertoire espagnol sans jouer Carmen, hein, le grand hommage. D'ailleurs, j'en profite donc pour préciser qu'il y aura à notre équipe du festival un jeune talent cette année qui joue de l'euphonium. L'euphonium, c'est un petit tuba. Et nous avons l'habitude au festival, une autre tradition, d'inviter en fait des jeunes talents, dans la mesure du possible, de la région ou voilà, qui ont étudié dans la région. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer Léon Peg, qui est un Marcillacois, donc de Marcillac-Vallon, qui joue de l'euphonium et qui est en cursus au Conservatoire de Toulouse actuellement, et même en double cursus, puisqu'il étudie également à l'INSA à Toulouse. Et j'ai eu le plaisir de le rencontrer, et il va nous interpréter donc la Carmen Fantasy de Bizet, arrangé par monsieur Luc Vertomen, spécialiste du genre pour l'euphonium, le Bolivar d'Eric Cook, une pièce très hispanisante, une petite transcription de la danse espagnole Andaluza d'Enrique Granados, puis nous aurons le chant des oiseaux, le fameux chant des oiseaux de Pau Casals, la oración del torero, de Joaquín Turina, La prière du toréador. La suite pour violoncelle de Gaspar Casado pour violoncelle seul, un grand classique aussi
grand
du
classique
genre.
Grand classique des violoncellistes.
Une petite pièce très mignonne de Isaac Albéniz pour piano quatre mains, La Pavana Capriccio. Et nous terminerons avec le quintet avec piano de Enrique Granados.
Et les musiciens qui seront sur le pont, ce sera qui ?
Alors toujours les mêmes, hein, Laura Jaillet, Claire Kezel au violon, Elodie Laurent à l'alto, Urshka Horvat Blanchard et Thibaut Blanchard Dubois au violoncelle, Martin Vess au piano, donc Léon Pegg, notre jeune talent avéronais à l'Euphonium, et moi-même au piano.
Et ce concert sera suivi d'une dégustation de tapas.
Exactement, petite tradition aussi. Nous mettons nos familles qui nous suivent pendant le festival un petit peu à contribution. Et l'année dernière, nous faisions un concert à la truite et ils nous avaient cuisiné des petites crêpes autrichiennes en forme de truite.
Oui.
Et cette année, nous les mettons à contribution pour quelques tapas de fin de concert.
Dernier extrait dans cette émission, il est tiré de la Danza Española numéro 5 Andaluza d'Enrique Granados et il est joué par une musicienne que vous connaissez bien, Jean-Sébastien Borsarello, la violoniste Geneviève Laurenceau qui fut super soliste de l'Orchestre National du Capitole il y a quelques années maintenant. Elle est accompagnée ici par le pianiste Jérôme Ducrot. La très belle Danza Española numéro 5 Andaluza d'Enrique Granados, interprétée par Geneviève Laurenceau et Jérôme Ducrot. Une pièce au programme du concert Viva España, mais elle sera jouée piano euphonium. Hein. Pour la clôture du festival Balade Musicale en Aveyron 2025, mardi 5 août à 18h30, en l'église Saint-Pierre-Eslins à Campuac. L'entrée est libre, comme c'est le cas de la quasi-totalité des concerts de cette cinquième édition. Et je signale que la billetterie est en ligne à l'adresse www.balademusicaleaveyron.fr. Je rappelle d'autre part qu'il reste deux représentations d'Adrienne Lecouvreur, l'opéra de Francesco Cilea, au Théâtre du Capitole le jeudi 26 juin à 20h et le dimanche 29 à 15h. Toutes les places sont vendues avec une remise de 50% par rapport à leur tarif initial. Au même endroit est donné Carmina Burana, le chef-d'œuvre de Karl Orff en version pour deux pianos et percussions avec les chanteurs Anaïs Constant, Pierre-Emmanuel Roubaix et Pierre-Yves Pruvot, ainsi que le chœur et la maîtrise de l'Opéra National du Capitole, vendredi 27 juin à 20h et samedi 28 à 16h. Pour ces deux événements, les places sont à acheter et à réserver sur le site www.opera.toulouse.fr. Et je signale enfin que le jeune pianiste Constant Després est en récital ce vendredi 27 juin à 20h au château de Palamini, en Haute-Garonne, et que le duo Alma, formé par la pianiste Anna Jbanova et la violoniste Clara Danchin, est en concert le dimanche 29 juin à 18h à la résidence d'artistes La Petite Forge à Plagnol, près de Rieum, en Haute-Garonne également. Les deux musiciennes vont y présenter leur nouveau CD. Je remercie Jean-Sébastien Borsarello, Simon Terris et Robert Pénavert d'avoir été les invités de cette émission. Merci aussi à Enzo Basile, son réalisateur. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci bien sûr à tous les fidèles auditeurs de Mélomanie. Très bonne semaine musicale à tous.